J'ai estimé ce matin que c'était bien que nous prenions la Sainte Cène après la prédication. Je voudrais partager des choses avec vous qui parlent de la grâce et qui en même temps parlent de la colère. Vous savez que la Bible parle souvent, c'est Jésus qui en parle, il parle de la grâce et il parle aussi de la colère. C'est équilibré et je voudrais commencer avec trois textes qui nous indiquent combien nous sommes, mais vraiment pas sensibles aux choses du Seigneur. Par exemple, dans Ésaïe au chapitre 30, vous connaissez ce texte. C'est des textes, moi, qui m'ont beaucoup fait réfléchir par rapport à mon ministère, par rapport au comportement des gens. Vous voyez, on parlait de chanter des choses. C'est bien, non, d'expliquer une strophe parfois. Est-ce que c'est bien d'expliquer une strophe? Ah oui. Vous voyez, par exemple, dans Ésaïe au chapitre 30, on voit plusieurs fois le Seigneur qui dit cette chose. Écoutez bien, parce que c'est l'introduction, on ne reviendra certainement pas là-dessus, mais c'est pour vous expliquer la difficulté que nous avons à venir à Dieu, à accepter les choses de Dieu. Regardez, Ésaïe 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Vous avez vu la suite ? Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous rendez compte? C'est impressionnant. Il parle au peuple d'Israël, il ne parle pas aux païens. Il parle aux chrétiens, aux croyants. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Si vous allez avec moi dans Jean au chapitre 5, ça revient exactement pareil. Le Seigneur invite. Le Seigneur, il invite les gens. On le voit. Je me demande vraiment ce que Jésus pensait à ce moment-là. Vraiment ce qu'il pensait. Mais sur ce qu'il disait, mais en plus. Je me demande. Jean chapitre 5, verset 39, il parle à des pasteurs, là. Ce n'est même pas des chrétiens. Il parle à des gens consacrés, entre guillemets, à la religion. Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est magnifique, ça. C'est tout ce qu'on veut, nous, les pasteurs, que les gens sondent les Écritures. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça fait quand même réfléchir. La troisième est encore plus terrible, parce que c'est dans le cadre d'une prophétie, dans Luc au chapitre 13. Il y a une prophétie, c'est pour moi une des prophéties les plus terribles du Nouveau Testament, à savoir qu'un jour la porte de la grâce sera fermée. Vous le savez, c'est écrit. Un jour le maître de la maison se lèvera et la porte sera fermée. C'est quelque chose de terrible. Vous le savez, on lit juste au verset 24, Luc 13, 24, « Efforcez-vous d'entrer par la force étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues ?» Et il vous répondra, « Je vous le dis. » Je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous qui ouvriez d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent et lui dirent « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer ». Il leur répondit, allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Regardez maintenant, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Quelle image extraordinaire! Quelle image extraordinaire! Est-ce que vous vous rendez compte la bénédiction que cela représente pour nous que nous soyons comparés à des petits poussins? Il ne nous compare pas à des gros coqs, il nous compare à des petits poussins. Pourquoi? Parce que nous aurons toujours besoin de sa protection. Toujours. Ne nous prenons pas pour des grands coqs costauds, nous serons toujours, quelque part, des petits poussins et que nous aurons besoin d'être protégés. Parce que vous savez, la vie, elle n'est pas toujours facile. Hier, je cherchais dans ma concordance, c'est vrai qu'il y a, je pris le mot âme, et quand vous lisez le mot âme, il y a toutes les fois où il dit « il restaure mon âme ». C'est bien quand Dieu restaure l'âme? Est-ce que c'est bien? Oui. « Il rassasie mon âme, il restaure mon âme tressaille de joie, mon âme est calme et tranquille ». Mais je peux vous dire qu'il y a tous les autres cas où l'âme, elle est fatiguée. Alors j'en ai pris quelques-uns, vous savez, c'est facile avec le concordance. Je vous les lis pour vous expliquer que parfois, intérieurement, nous pouvons être confrontés à de grands combats. De grands combats. Je vous les lis. Je ne les ai pas tous pris, parce que je voulais quand même faire autre chose pendant le culte. Mon âme était languissante. Mon âme se brise par le désir. Mon âme pleure de chagrin. Tire mon âme de sa prison. Mon âme se courbait. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Tu sais les angoisses de mon âme. Mon âme est troublée. Mon âme est dans l'amertume. Mon âme est découragée. Mon âme est nonchalante. Mon âme est souffrante. Mon âme est dégoûtée de la vie. Vous savez qui c'est qui a dit ça? Job. Mon âme est desséchée, etc. C'est quand même écrit. Et c'est vrai que je pense que c'est bien de vouloir ce que Dieu veut. Il dit, mais combien de fois? Et c'était, il n'a pas essayé une fois. Combien de fois? Et ce matin, c'est ce qu'il dit. Mais combien de fois est-ce qu'encore aujourd'hui, Dieu va essayer de nous amener sous sa chaleur? Parce que c'est quand même le refuge de Dieu. Ce n'est pas un blocos quand il dit, tu es mon refuge. Quand dans le psaume 91, vous connaissez le psaume 91? Vous le connaissez? Dans le psaume 91, quand il parle de refuge, c'est exactement le même principe. Regardez avec moi. Mon introduction est un peu longue, je l'avoue, mais c'est quand même important. Regardez dans le psaume 91. Dans le psaume 91, il parle de la bénédiction, de cette bénédiction-là. C'est un psaume qui indique ce que Dieu veut, que notre âme soit réfugiée dans la protection de Dieu. Psaume 91. Vous croyez que dans le temps qu'on vit, il vaut mieux être à l'abri? Moi, je pense, oui. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est l'image, c'est la même image. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alors la forteresse, vous faites peut-être vous une idée d'un certain blocos, mais regardez ce que c'est. Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Toute la parole, regardez le psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Et c'est la question que je vous pose ce matin. Qu'est-ce que vous voulez? Puisque Jésus dit, vous ne l'avez pas voulu. Mais si Dieu lui-même vous posait la question, voilà, c'est que votre pasteur, donc c'est facile. Mais imaginez-vous que ce soit Dieu lui-même qui vous pose la question, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Puisque Dieu dit, mais je t'ai proposé ça, je t'ai proposé de vivre dans le calme et la confiance, et tu ne l'as pas voulu. Je t'ai proposé de venir avec à moi, tu te contentes de ta religion et de sonder les Écritures, pourtant c'est extraordinaire de sonder les Écritures. Mais voyez le décalage qu'il peut y avoir, on peut lire la Bible sans venir à Jésus. Et après, on peut refuser cette protection pleine de chaleur, de tendresse, parce que notre âme est confrontée à toutes ces émotions et toutes ces difficultés. Il faut être honnête. Bien sûr qu'on peut tous se réjouir d'appartenir à Jésus. Si vous êtes sauvés, vous vous réjouissez. Même si vous étiez malade, même si vous étiez en train de mourir, vous vous réjouissez dans votre cœur d'appartenir à Jésus. Mais la vie, elle est faite de combats. Et le Seigneur, il dit, mais c'est pour ça. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler? Vous voyez, il n'a pas dit comme des soldats prêts à se battre, quoique c'est aussi une vérité. Mais quand même, on voit cette tendresse de Dieu. Et hier, quand je priais, mais vraiment, j'ai eu à cœur de mettre ces petites photos, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Et si cet été vous promenez, voyez une ferme, demandez. Quoique l'été, ce n'est pas le meilleur moment, c'est le meilleur moment, c'est maintenant. Mais vous pouvez le voir. Et quelle image! Alors, moi, je voudrais ce matin, après vous avoir parlé d'une introduction, je voudrais vous parler de la colère de Dieu. Parce qu'en fin de compte, cette protection, c'est parce que la colère de Dieu va venir. Et elle vient. Et tout ce que nous voyons sont des prémices de la colère. Vous comprenez pourquoi? Il est urgent d'être à l'abri. Urgent. Car l'homme, il est compliqué. Moi, je trouve que l'homme est compliqué. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. et je vous donnerai la vie. Et quand la porte va être fermée, parce que la porte est ouverte, mais quand la porte va être fermée, les gens, ils viendront pour frapper. Vous avez vu avec moi. Ça vous montre combien l'homme, il est tordu et compliqué. Tant que la porte est ouverte, venez. Les gens, non, on s'en fiche, on n'a pas besoin de Jésus, tout ça, on n'a pas besoin de religion, c'est pour les faibles, tout ça. Et quand la porte sera fermée, ces mêmes gens diront, ouais, pourquoi Dieu nous a laissés dehors? Mais parce qu'ils ont, ils n'auront pas pris au sérieux ces choses. Alors peut-être que ce que je vous dis devrait être dit en réunion d'évangélisation. Et j'ai souvent dit, je le pense, ce que je vais dire, je vais peut-être mal le dire, mais je le pense. Quand je me suis converti, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup d'églises où les croyants auraient besoin d'évangélisation. Je pensais à nos amis catholiques dont j'étais. Et je me dis, mais on a vraiment besoin d'être évangélisé. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout du mépris. C'est pour ça que je vous dis, je l'ai peut-être mal dit. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des religions où les gens ont besoin d'être évangélisés. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Mais dans l'église évangélique, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont pourtant pris le baptême, qui ont besoin tout à nouveau d'être vraiment évangélisés. Et d'entendre des messages sur la croix où ils doivent comprendre que la grâce est une réalité. On le voit, si vous avez lu la Bible, vous le savez, Dieu est assis, enfin Jésus-Christ est assis en ce moment sur le trône de la grâce pour faire grâce. La porte, elle est ouverte. Vous pouvez dire merci Seigneur. Si vous n'êtes pas encore converti, baptisé, je ne sais pas, né de nouveau, vous pouvez dire aujourd'hui, 20 avril 2014, la porte, elle est ouverte. C'est bien de pouvoir le dire. Bientôt, on ne pourra peut-être plus le dire. Parce que la porte sera fermée. Et le jour de la colère va venir. Si vous avez lu l'Apocalypse, vous le voyez, après que Dieu s'adresse aux églises, il parle justement de ce qui va arriver sur la terre, et il dit, le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Vous connaissez cette question. Elle est posée pour l'église. Beaucoup de gens liront certainement l'Apocalypse après l'enlèvement de l'église. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que les gens vont lire l'Apocalypse après l'enlèvement? Est-ce que les chrétiens qui ne sont pas prêts liront l'Apocalypse? Moi, je pense. Je ne sais pas, moi, ce que je ferais si l'Église était enlevée et que je reste sur terre. Je pense que je ne veux pas m'imaginer même pas cette situation. Mais ça va arriver. Parce que la parabole des 10 vierges nous indique que ce n'est pas parce qu'on attend le maître que l'on est prêt au retour du maître. La colère va venir. La colère vient. Des fois, on se dit, oui, il faut... Vous avez vu. Vous avez vu les journalistes, la politique. Ça donne une idée quand même, vous voyez un petit peu, du méli-mélo dans lequel le monde se trouve, la nation se trouve. Vous savez, on ne doit pas faire de politique, c'est évident. Mais quand même, quand on regarde les infos, ça vous permet de voir la mentalité, l'état d'esprit dans lequel nous sommes aspirés et le diable voudrait nous aspirer. Pour faire être des rebelles, tout le temps en train de râler, de contester, de ne pas se soumettre. Parce que c'est ça, il faut trouver l'équilibre entre le fait de prier pour les autorités, d'aimer les autorités, tout en n'entrant pas dans ce mécanisme qui est complètement aberrant, dans lequel on ne peut pas adhérer. Mes frères et sœurs, c'est pas la droite ou la gauche, l'extrême droite ou l'extrême gauche. Qu'est-ce que c'est qui marcherait le mieux d'après vous? Quel c'est le courant? Allez, on est entre nous là. Qui c'est qui marcherait le mieux? Le centre? Le plus équilibré, c'est quoi qui marcherait le mieux? Dites-moi, c'est quoi? Allez, on est. On le dira pas. Jésus, mais il se présente pas pour le moment. Il va se présenter, il n'y aura pas d'élection. Mais enfin, il va venir. Vous le savez qu'il va venir. Et nous le savons que le règne de paix viendra pendant le millénium. Et jusqu'à ce que Jésus revienne chercher l'Église, nous allons voir des choses de plus en plus graves. C'est pour ça qu'il faut que tous nous puissions dire « Oui, je veux me réfugier sous les plumes du Seigneur. » C'est ça que Dieu veut. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je dis, on va chanter ce cantique. Est-ce qu'on peut tous chanter cette troisième strophe? Parce qu'on voit, nous on le voit. Moi, ça me brise le cœur, je vous le dis franchement. Ça me brise le cœur. On ne le montre pas toujours, on n'a pas le montré. Mais moi, ça me brise le cœur de voir la quantité de chrétiens qui vivent dans le péché. Mais c'est évident. Et Jésus pourrait leur dire, mais tu ne le veux pas. Tu veux... Vous avez vu ceux qui ne sont pas pris là dans la prophétie? Retirez-vous, ouvriers d'iniquité. Mais on a mangé avec toi, on a bu avec toi, on était à l'église tous les dimanches matin, on prenait la Sainte Cène, on écoutait le sermon, oh, c'était intéressant, ça me plaisait. Jésus dit, mais je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu, mais tout à l'heure, monsieur Gadrois, là, il a dit que tu étais omniprésent, omniscient. Et il nous connaît ou il ne nous connaît pas? Il connaît à tout le monde. Mais il ne nous approuve pas. C'est ça que ça veut dire. Je ne vous ai jamais connu. Bien sûr, si vous croisez dans la rue, il peut vous dire, voilà, tu t'appelles Michael, tu t'appelles oui, Fontaine, voilà, ta femme s'appelle Laure. Il peut. Est-ce que Dieu peut appeler par son prénom tous les habitants de la terre? Oui, ben, monsieur, bon, ça nous dépasse un peu. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes à l'abri de la colère? C'est là la question qu'il faut que vous vous posiez. Parce que prendre le pain et le vin, se réjouir et chanter des cantiques plus beaux les uns que les autres, c'est bien. Mais la question que vous devez, que moi je dois vous poser, que nous devons nous poser, est-ce que je suis à l'abri de la colère? Le jour de la colère est venu, qui pourra subsister? Qui pourra subsister? Dieu est-il votre refuge? La colère, c'est terrible. Vous avez vu tout ce qui se passe. Vous avez vu. Je disais l'autre jour, je ne sais plus qui, un frère ou un stagiaire, je disais, c'est grave ce que je vais vous dire, ça me fait peine de le dire, mais il faut le dire. Vous savez qu'aux États-Unis, l'église méthodiste, quand vous avez étudié les églises, l'église de Wesley, bon, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Quand vous étudiez le réveil wesleyen, l'église méthodiste, c'est quand même quelque chose, l'église méthodiste. Moi, j'ai lu les sermons de Wesley, c'est vraiment des sermons, c'est pas le petit lait de ce matin. Quand vous regardez que l'église méthodiste est en train de voter aux États-Unis pour l'acceptation de l'homosexualité, et des conducteurs qui peuvent être au nom de la tolérance et tout ce que vous voudrez. Vous savez, mes frères et sœurs, ce sont des choses... Alors ça plaît. Vous rendez compte les progrès qu'on fait. Vous rendez compte, mais c'est merveilleux, cette tolérance. Qu'est-ce qu'ils font des progrès dans les églises? Je ne pense pas que Dieu pense la même chose. Parce que Paul a dit aux Éphésiens, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est écrit, vous me faites confiance, vous savez que c'est la parole. C'est à cause de ces choses que la colère devient sur les fils de la rébellion. Alors on voit tous ces trucs, c'est déplorable. Vous rendez compte de ce qu'on est en train d'accepter? Là, je vais vous faire rire. Moi, j'ai trouvé ça mais ridicule. Je vous le dis pour vous montrer combien le monde est fou. On a un député, quand même, quelqu'un qui siège au Parlement, à l'Assemblée nationale. Un député qui a proposé une loi cette semaine. Je ne sais pas si ça va vous faire rire, moi j'ai trouvé ça lamentable. Quand il y a un divorce, il faut que le petit chat ou le petit chien, l'animal de compagnie, il puisse choisir entre lequel des deux, l'homme, la femme, est le plus gentil. Donc il faut un psychologue pour animaux. Voilà, c'est une loi qui va être proposée. Vous l'avez lu? Non mais, vous avouerez que là, ça devient un peu compliqué. Non mais c'est vrai, hein, vous avez plusieurs l'ont vu. Non mais quand vous lisez ça, vous vous rendez compte que l'homme, il est malade. De la tête, comme dit la Bible, de la pointe des cheveux jusqu'à la plante des pieds. C'est vraiment grave. C'est quand même quelqu'un, c'est un député qui a pondu ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il fallait y penser vraiment. Voilà, nos animaux sont en sécurité. Mais heureusement pour nous qui sommes sous le regard de Dieu... Nous sommes là, et je voudrais m'adresser à ceux qui sont peut-être légers avec Dieu. C'est vrai qu'il est maintes fois écrit que Dieu est lent à la colère. Que son nom soit béni. Souvent, nous le voyons, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il patiente. Parce qu'il patiente, parce qu'il faut que l'Église se réveille aussi. Il faut que l'Église se réveille pour que l'Église soit cet outil utile entre les mains de Dieu pour pouvoir aider ceux qui veulent rentrer, parce qu'il y a encore des gens qui veulent rentrer. Est-ce que Dieu sait quand est-ce que la totalité des païens sera sauvée? La Bible en parle de ça. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un, un homme, une femme, un vieux, je ne sais rien, un jeune, je ne sais rien, ça sera le dernier à se repentir, à se convertir. Et une seconde après, il y aura l'enlèvement de l'Église. Il va monter en se frottant le front, le gars. Moi, je vous le dis. Mais mes frères et sœurs, que vous le vouliez ou non, c'est quand même écrit. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Et pour cela, il ne faut pas dire « Seigneur, reviens, reviens ». Il faut peut-être que le Seigneur m'utilise aussi pour parler à des gens. Parce que peut-être sur 100, il n'y en a aucun qui viendront, c'est possible. Peut-être il y en a un qui viendra. Mais une chose est sûre, je crois que nous devons témoigner de ces choses, d'une manière intelligente, bien sûr, et équilibrée. Dans 1 Thessaloniciens, il est parlé de ceux, ne le cherchez pas, dans 1 Thessaloniciens 2,16, parle de ceux qui mettent le comble au péché. Moi, je crois qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui, franchement, quand j'entends ce que j'entends des milieux religieux, je peux vous dire qu'on est en train de mettre le comble au péché. Et tout ce que nous voyons, on ne voit pas tout, on voit que certaines choses, mais le peu que nous voyons nous indique que la colère va finir par arriver. Elle vient, la colère de Dieu. Écoutez, est-ce que vous avez besoin d'une prophétie là-dessus ? Non. Vous savez tous pertinemment que la colère de Dieu va venir. Même des fois, on entend les païens, ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas continuer pas comme ça, il va se passer quelque chose. Vous avez lu l'Apocalypse ? Est-ce que vous avez lu ? Bon, on ne comprend pas tout, parce qu'il y a beaucoup de symboles, mais quand vous lisez l'Apocalypse, vous vous rendez compte qu'à partir du chapitre 6, il y a les sceaux, vous savez, les coupes, les trompettes, et vous avez vu comment ça va en crescendo jusqu'à ce que Jésus revienne sur la terre chercher l'Église. Parce qu'il faut que vous le sachiez. Quand Jésus va dire stop, l'Église va être enlevée. Alors ça fait sourire des gens, ça fait sourire, mais ne riez pas de ces choses. 136 fois dans le Nouveau Testament, il est parlé de l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Deux fois uniquement, il est parlé du retour de Jésus, c'est-à-dire quand on reviendra avec lui pour régner sur la terre. 136 fois, il est fait allusion directement ou indirectement à l'enlèvement de l'Église. Tout ce que nous voyons est en train de nous prouver que les choses sont en train de s'accélérer. Et il faut que nous soyons sérieux. Les gens sont en train, mine de rien, de se positionner. Et on le voit très bien dans l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez médité l'Apocalypse, mais ça vaut la peine. S'il y a bien des chrétiens qui devraient s'intéresser à un livre, c'est bien à celui-là. Regardez avec moi, on va lire quatre petits textes qui nous indiquent quel sera le comportement des gens pendant les fléaux, les coupes. Regardez avec moi, Apocalypse, on va lire 9, verset 20. Apocalypse 9. Verset 20, regardez, quand les fléaux, etc., c'est quand même terrible ce qui va se passer. Il va se passer des choses terribles, terribles sur la terre. Lisez l'Apocalypse, ça vous fait froid dans le dos, si vous croyez que ça va vraiment arriver. Apocalypse, chapitre 9, verset 20. C'est vrai que bon, c'est la sixième trompette, là vraiment, on est en plein dans la grande tribulation, ça craint vraiment. Parce qu'il est dit, regardez au verset 15, 9-15, les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Vous voyez que ça va, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le tiers des hommes, il y a 7 milliards d'habitants, ça voudrait dire qu'il y a au moins 2 milliards et quelques, 2 milliards, 300 millions d'hommes qui vont périr. On se demande comment, mais enfin, ça va arriver. Regardez le verset 20, regardez la réaction des gens. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Vous voyez, les gens, à la place de devenir à Dieu, ils choisissent de ne pas se repentir. Regardez Apocalypse 16, 9. C'est important, quand vous le remarquerez, quand vous regardez le comportement des gens, c'est la preuve qu'ils se positionnent contre Dieu. C'est ça qui va accélérer l'enlèvement de l'Église. Apocalypse 16, verset 9, « Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. » Et, regardez la réaction, « Ils blasphémèrent le nom de Dieu. » Alors, quand vous leur dites, « Mais tu sais, Dieu, il t'aime. » Non, Dieu n'existe pas. Mais voyez, quand les fléaux arrivent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils blasphèment le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Verset 11. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leur œuvre. Verset 21. Et une grosse grêle, dont les grelons pesaient 50 kilos, tomba du ciel sur les hommes. J'ai pas dit un talent pour que vous compreniez mieux. Sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Je ne sais pas si vous imaginez des grêlons de 50 kilos, imaginez des sacs de béton, quoique les sacs de béton aujourd'hui ne font que 35 kilos, mais imaginez-vous des sacs de ciment de 50 kilos qui vous tombent sur la maison. Mais c'est ce qui va arriver. Et les gens, à la place de se repentir, ils blasphèment. C'est la preuve que les gens sont en train de se positionner. Ce qu'on voit aujourd'hui, vous avez vu, vous parlez de Jésus à quelqu'un. Ah, si Dieu existait, Dieu n'existe pas. Mais c'est la meilleure façon de ne pas vouloir se préparer à rencontrer Dieu. Dieu n'existe pas. Alors que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et si quelqu'un le pense vraiment, si vraiment quelqu'un le pense, parce que c'est arrivé, je vous assure que c'est arrivé. Je ne le croyais pas, mais maintenant je sais que c'est vrai. Si quelqu'un dit, moi je n'ai pas la pensée de l'éternité, je n'y crois pas. Alors je peux vous dire que le gars, il est vraiment, vraiment mal. Si quelqu'un un jour vous dit, ah moi je crois, je n'ai pas la pensée de l'éternité, dites-vous bien que cette personne est endurcie à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Ces choses sont prophétisées. Ces choses, elles n'ont pas été écrites pour nous faire peur. Parce que je crois que c'est le seul livre en plus où il est dit « Heureux celui qui lit ce livre ». C'est une bénédiction de lire ces prophéties. C'est une grâce de lire ces choses. Parce qu'au moins, ça nous prévient vraiment de ce qui va arriver. En tous les cas, tout ce qu'on a besoin de savoir. Jésus a dit « Voici, je vous ai tout annoncé à l'avance ». Il y a des gens qui disent « Oui, Dieu aurait pu nous en dire un peu plus. Ça aurait été mieux si... » Écoutez, tout ce qu'on avait besoin de savoir, c'est écrit. Le Seigneur l'a dit. Ce qui est arrivé du temps de Noé, qu'est-ce qu'il a dit après ? Arrivera du même au jour du Fils de l'homme. Ce qui est arrivé du temps de Noé, pas Noé le film, hein ? Le Noé dans la Genèse. Ce qui est arrivé du temps de Noé, les hommes étaient méchants, violents, portés au mal, les pensées de leur cœur s'adonnaient tous les jours au mal. Vous trouvez que c'est pas en train de... Non ? Vous discutez avec les gens, mais vous savez, il faut pardonner. Ah non, il est hors de question de pardonner ! Qu'il paye. Avant, quand même, oui, c'est vrai, il faudrait quand même pardonner. On nous a appris. Maintenant, vous discutez avec des gens, vous savez, il faut quand même aimer. Ah non, il faut de la haine. Il y a des gens qui ils osent le dire en plus. Mais vous savez, bon, au bout d'un moment, il ne faut pas oublier que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce que vous lisez dans l'Apocalypse nous indique vraiment ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église. Il va y avoir un régime mondial totalitaire, là je peux vous dire que... Alors c'est vrai que, voyez, vous avez vu comment tout est laxiste, mais c'est grave tout ce qui se passe. Eh bien je peux vous dire, ils vont être servis. Parce qu'ils vont vraiment avoir un dictateur qui va serrer la ceinture, croyez-moi. Et au niveau du monde. Et ce qui se passe au niveau de l'Europe, là peut-être que ça vous dépasse tout ça. Mais laissez-moi vous dire que ce qui se passe au niveau de l'Europe est en train de préparer la venue de l'Antéchrist. C'est pas plus compliqué que ça. Croyez-moi. Et l'Europe, croyez-moi, ça va marcher plus que ce qu'on pense. Bon, ça va être. Vous connaissez. Pour comprendre l'Apocalypse, il faut lire le livre de Daniel. Vous ne pouvez pas comprendre l'Apocalypse si vous ne lisez pas le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, vous savez, la fameuse statue que Nebuchadnezzar a vue, il y a quatre empires. Et le dernier empire, c'est les pieds, qui sont à la fois d'argile et de fer. Vous connaissez, donc l'argile et le fer ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc ce quatrième empire qui est l'Europe reconstituée, car croyez-moi, on ne peut pas se tromper là. Laissez-moi vous dire qu'il va être à la fois fort et à la fois faible. On le voit au niveau du commerce, c'est la fragilité qu'il y a, mais vous allez voir à certains niveaux comment il va être fort. Et tout ça prépare la venue de l'Antéchrist. Mes frères et sœurs, ces choses-là, elles ont été écrites. La colère de Dieu, on peut en parler des heures, on peut prendre des textes. Moi, je ne sais pas combien de textes j'ai pris sur la colère de Dieu. On peut en prendre. Je ne pense pas que ce soit l'essentiel. Ce qui est important, c'est de pouvoir dire ce matin, mais oui, est-ce que je peux chanter la troisième strophe de ce beau cantique, « Le sang de Jésus m'a lavé de toute iniquité ». Est-ce que ce matin, vous pouvez dire, oui, je vais prendre le pain et le vin parce que Jésus m'a lavé. Je ne suis pas meilleur qu'on autre. On n'est pas sauvé par les œuvres, heureusement. On n'est pas sauvé par notre justice, parce qu'on s'applique à faire plein d'efforts. Est-ce que c'est bien les chrétiens qui font des efforts pour plaire à Dieu ? Est-ce que vous en faites des efforts ? Est-ce que vous en faites des efforts pour plaire à Dieu ? Bon, mais c'est bien. Faites-le et continuez à les faire. Mais vous ne serez pas sauvé parce que vous faites des progrès. Béni soit Dieu pour les progrès. Et je crois qu'un chrétien doit marcher de progrès en progrès. Si vous avez 10 ans de conversion et que vous n'avez fait aucun progrès, vraiment, c'est triste pour vous et pour moi. Parce que c'est la preuve que vous n'écoutez rien ou que moi je ne prêche pas bien. Il y a un truc qui s'est passé. Parce que c'est quand même écrit de recevoir avec douceur, C'est écrit aussi de semer. Le semeur, il sème le mieux possible. C'est ce qu'on essaie de faire quand on prêche. Mais mes frères et sœurs, si vous n'avez fait aucun progrès, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que vous irez en enfer parce que vous n'avez pas fait de progrès. À partir du moment où on se convertit et qu'on reste sur le fondement, on est sauvé. Mais mes frères et sœurs, béni soit Dieu si on peut chanter « Jésus, par ton sang précieux, tu m'as lavé ». On va prendre le pain et le vin et je voudrais que ce soit fait avec beaucoup de cœur. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste qui voit arriver plein de gens qui prennent le baptême. Est-ce que c'est bien de voir arriver plein de gens qui prennent le baptême ? Est-ce que c'est bien ? Ben oui, c'est bien. Et lui, il dit pas « Youpi ». Vous savez ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Race de vipère, alors ça a dû les électrifier. Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ce prédicateur ? Est-ce qu'un pasteur a le droit, tiens donc, est-ce qu'un pasteur a le droit de dire dans une église qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Mais bien sûr. Il y a des gens qui ont dit, oui, Jean-Baptiste, il n'aimait pas les gens. Alors, Jean-Baptiste, il aimait les gens ou il n'aimait pas les gens ? Ben on aime les gens. Si vous n'acceptez pas la sévérité de Dieu, c'est que vous avez un gros problème. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu ? Il y a des gens, ils fuient la colère de Dieu. Ils voient tout ce qui se passe, on en profite. Ah, au gouvernement, il y a des députés qui magouillent. Ah, et bien moi, ça me donne le feu vert pour magouiller. C'est comme ça que les gens réagissent. Ah, ils ont magouillé. Eh bien moi, ça me donne l'autorisation de travailler au noir. Et ouais, c'est comme ça que c'est en train de se passer. C'est comme ça que ça se passe. Et dans le monde, c'est normal. Parce que moi, je pense sérieusement que si je n'étais pas converti, je ferais pareil. Mais je crois qu'un chrétien, il a le devoir d'avoir une bonne conscience. Oui ou non ? Et quand on a perdu la conscience, laissez-moi vous dire qu'il ne va pas falloir beaucoup de temps pour qu'on perde la foi. C'est écrit. Ils ont perdu la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu la conscience. Parce que tout ça, ça marche ensemble. Il ne faut pas rêver. Mais la colère de Dieu, c'est quand même... Il faut en parler de la colère de Dieu. Oui ou non, est-ce qu'il faut en parler ? Ben oui, Jésus en parle. Et il en parle souvent. Est-ce qu'il faut parler de l'enfer ? Qui c'est qui a parlé de la géhenne ? Qui c'est qui a parlé de la géhenne ? Combien de fois a-t-il parlé de la géhenne dans la Bible ? Combien ? Qui c'est qui a dit 12 ? C'est bien. 12 fois il est parlé de la géhenne dans le Nouveau Testament. Et les 11 fois, c'est Jésus qui en parle. 11 fois. Vous vous rendez compte ? C'est pour vous dire qu'il faut en parler. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas parler que de ça. Ça serait pas bien. Mais, mes frères et sœurs, Combien de fois Dieu a voulu nous faire du bien ? Combien de fois Dieu a voulu me faire du bien et que nous ne l'avons pas voulu ? Combien de fois nous aurions pu être à la place de ce petit poussin ? Vous savez, les petits poussins, ils sont à l'abri, là. Quelle bénédiction ! J'ai lu l'histoire dans les feuillets, là, vous savez, les éphémérides, qu'il y avait eu un incendie dans une ferme. Vous l'avez lu tous, si vous avez lu les éphémérides. Il y avait eu un incendie dans une ferme. Et le paysan, après l'incendie, il est arrivé, il a vu une boule carbonisée. Et machinalement, il a donné tac un petit coup de pied dans la boule. C'était une poule. Et quand il a fait rouler la poule, tous les poussins étaient vivants, ils sont partis. Elle n'est pas belle cette image ? Quelle belle image ! Mes frères et sœurs, si vous êtes sous les ailes du Seigneur, c'est une image. Vous êtes à l'abri du jugement. Vous êtes à l'abri de la colère. Le Seigneur vous gardera. C'est écrit, il vous gardera jusqu'à la fin. Il est votre refuge. Le Seigneur a été notre refuge. Nous sommes à l'abri sous ses ailes. Nous sommes à l'abri sous son sang précieux. Aujourd'hui, on va fêter la Pâque. On fête la Pâque aujourd'hui en France. La Pâque, les œufs au chocolat, ça fait mal au cœur de voir ce que c'est devenu la Pâque. Comment le diable a réussi ? Moi, je ne suis pas contre les œufs, tout ça, c'est bien. Je ne suis pas contre la tradition. Mais quand même, quand ça occulte le spirituel, c'est quand même dommage. Mes frères et sœurs, la Pâque, vous vous rappelez quand Dieu a célébré la Pâque ? Comment ça s'est passé ? Hein ? Qu'il fallait quand même que quelque chose se passe. Et Dieu a dit aux Hébreux, bon voilà, ce que vous faites, vous allez égorger l'agneau, et vous prendrez du sang, et vous le mettrez sur le linteau, et sur les poteaux des portes. Et quand l'ange exterminateur passera, quand il verra le sang, il passera au-dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait ça. Et ceux qui ont pris au sérieux cette affaire, eh bien, quand l'ange est terminé, Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. La Pâque, c'est ça que ça veut dire, passer par-dessus. Mais ça veut dire que le jugement ne nous atteindra pas. Si vous avez accepté le sacrifice de Jésus-Christ, si vous avez accepté le sang de Jésus-Christ pour vous purifier, parce qu'en dehors du sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça qu'on célèbre la Sainte-Cène. La Sainte Cène, c'est pas, tiens, je suis pentecôtiste, je prends la Sainte Cène comme ça, c'est une commémoration. Ah ben nous, c'est pas la commémoration, c'est la consubstantiation. Ah ben nous, c'est pas la consubstantiation, c'est la transsubstantiation. D'accord. Mais est-ce que vraiment tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur? Est-ce que vraiment ce matin, vous qui êtes ici, vous qui écouterez cet enregistrement, vous pouvez dire « Oui, je peux chanter la troisième strophe avec joie. Jésus, par ton sang précieux, tu m'as pardonné. » Regarde, la première, c'est « Regarde-moi du haut des cieux. Regarde-moi du haut des cieux. » Seigneur, je crois que Dieu nous regarde ce matin. « Regarde-moi du haut des cieux et dis-moi que tu m'as pardonné. » C'est ça qu'on a besoin d'entendre. Parce que, et oui, il vous a pardonné. Et vous savez comment? Vous savez comment ses mains percées? Vous savez, on a un vieux cantique aussi, enfin un vieux, pas si vieux que ça, on le chantera tout à l'heure. C'est « Devant le trône du Très-Haut ». Et dans ce cantique, il est écrit, c'est pas de la poésie, il est écrit « Mon nom est gravé sur tes mains. Mon nom est gravé sur tes mains. » Et on va le lire, c'est une parole dans Isaïe. Parce que quand vous ne connaissez pas la Bible, vous pouvez dire « Tiens, c'est joli, c'est mignon ». C'est pas mignon, c'est la vérité. Dans Ésaïe 40, c'est dans Ésaïe, ça c'est sûr. Dans Ésaïe 49, il y a des moments où notre âme elle va pas bien. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Est-ce que vous pouvez dire des fois là, ça va pas bien? Ça vous arrive des fois? Moi, j'ai entendu dans les églises, un chrétien, il est toujours joyeux. Mais dis donc, est-ce que c'est vrai? Ben, il faut arrêter. Je pense qu'on peut avoir toujours la joie du salut. Mais moi, je peux vous dire qu'en certaines circonstances, quand je lisais « Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie », eh bien, si j'étais honnête à l'époque et j'ai dit au Seigneur, écoute, Seigneur, même là, je peux pas. Parce qu'il faut être honnête, on ne va pas faire semblant. Mais je vous avoue que quand je lisais « Réjouissez-vous », parce que vous savez, les disciples, ils sont revenus, les 70, ils étaient heureux, les démons étaient soumis au nom de Jésus, ils étaient tout contents comme tout. Et ils le disent à Jésus, « Tu sais pas, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur a pas dit « C'est super ». Jésus leur a dit « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. » Parce que le résultat, vous savez, ça va, ça vient, on n'a pas toujours du résultat. Des fruits, oui ou non? Mais par contre, le salut, c'est on l'a toujours. On l'a toujours. Et on voit que Jésus a payé le prix. C'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas prendre la Sainte Cène avec reconnaissance. Regardez Isaïe 49. « Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Toutes les fois où on croit que Dieu nous abandonne. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, c'est Dieu qui parle, hein, moi, je ne t'oublierai point, voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Voilà ce qui s'est passé au calvaire, quand vous voyez, on voit des fois des images, bon, nous on dit, oh, il ne faut pas montrer Jésus crucifié sur la croix, c'est pas bien, Jésus ressuscité. Écoutez, moi, ça ne me gêne pas du tout de voir un Christ crucifié sur la croix. Je vous le dis franchement, ça ne me gêne pas. Je sais très bien que Jésus est ressuscité, qu'il est glorifié, qu'il est assis sur le trône et qu'il règne, couronné de gloire et d'honneur. Ça, j'en suis certain. Mais mes frères et sœurs, moi, quand je vois un Christ crucifié, une photo, une image, etc., je dis, Seigneur, merci, parce que dans tes mains, mon nom, il est gravé. Bon, ça nous dépasse, mais mes frères et sœurs, c'est la vérité. Si Jésus l'a dit, c'est la vérité. Est-ce que le sang de Jésus vous a lavé? Est-ce que vous pouvez dire oui, je suis justifié, pas parce que j'ai fait des super progrès depuis ma conversion, je le répète, je suis justifié par le sang de Jésus. J'ai fait la paix avec Dieu par le sang de la croix. Quand vous passerez devant Dieu, c'est le Seigneur qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. Que c'est lui qui confessera notre nom devant le Père et devant les anges. C'est écrit ou c'est pas écrit? Où c'est écrit? Où c'est écrit les stagiaires? Sinon, je vous garde l'un de plus. Faites gaffe. C'est bien. Bon, mais je vous garde l'un de plus. Tant pis pour vous. Allez, Apocalypse. Chapitre 3. Tant pis pour toi, Jérémy. Tu vois? Apocalypse, chapitre 3. Il est parlé de celui qui veille. Parce que la conclusion de cette prédication, la conclusion, c'est le prophète Habacuc. Vous connaissez Habacuc? Est-ce que vous connaissez Habacuc? Le prophète Habacuc, bien sûr, c'est un homme de Dieu, il se tient devant Dieu et il le dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il voulait savoir la pensée de Dieu, comme nous on le fait un petit peu, bon, on n'est pas à la cheville d'Habacuc, mais ça ne fait rien. On se tient devant Dieu pour savoir ce que Dieu veut que nous disions à l'Église. Il se tient devant Dieu, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et quand vous lisez le prophète Habacuc, là aussi, vous voyez une série de jugements qui va s'abattre sur Israël, comme ce n'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas obéi. Et il dit, il va dire quelque chose, c'est pour ça qu'on va lire ce texte dans l'Apocalypse, il dit, mais dans ta colère, parce qu'il sait que la colère de Dieu va venir, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. C'est sa prière, parce qu'il sait que même si on sait que la colère de Dieu va venir, on peut tous quand même dire, écoute Seigneur, je sais que ta colère va venir, mais pour le moment, tu es assis sur le trône de la grâce et tu veux sauver des hommes et des femmes. Alléluia, il ne faut pas mettre la pression sur les gens. Je crois que les gens se convertiront pas parce qu'on leur dira, si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer. Non, je ne pense pas que c'est comme ça que ça marche. Je pense que les gens se convertiront parce qu'ils seront... Ils sont attachés à ces images qu'on a vues. Jeudi soir, Jérémy nous prêchait sur le berger qui va et qui porte la brebis sur ses épaules. Quelle image aussi! Mais quelle image extraordinaire! Vous avez déjà vu une brebis portée sur les épaules? Eh bien, ça aussi, aller dans une ferme cet été. Je dirige vos vacances. Mes frères et sœurs, quelle belle image! Une brebis, non pas qui prend des coups de fouet pour rentrer à la maison, mais qui est portée sur les épaules du berger. Voilà ce que Dieu veut. Bien sûr que nous, on est maladroits. Et si vous êtes rétrograde, si vous n'êtes pas encore converti, peut-être qu'on vous a mal prêché l'évangile. C'est évident. Mais vous ne vous convertirez pas parce que vous aurez peur de l'enfer. Vous vous donnerez à Jésus-Christ parce que vous croirez vraiment que vous avez besoin de son amour. On en a besoin. Et Habacuc veillait, il savait, dit bon ça va arriver, mais nous aussi on le sait que ça va arriver. C'est pas la peine du Seigneur. Des fois on entend des prières, bon Dieu le sait, mais ça, elles seront pas exaucées. Seigneur qui est la paix sur la terre, Seigneur protège Israël, qui est pas de guerre en Israël. Écoutez, moi je vais vous dire que ça va aller de plus en plus mal. Ça va aller de plus en plus mal, croyez-moi. Bien sûr qu'il faut prier pour que les chrétiens soient protégés en Israël. Bien sûr, mais Dieu protégera ses enfants. Habacuc il a veillé. Il a dit, Seigneur, dans ta colère, c'est clair, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. L'Église ne doit pas entendre une prédication sur la grâce et sur la colère. Les chrétiens, mes frères et sœurs, soyez sérieux. Nous devons nous réveiller et nous dire, je veux, moi aussi, conscient que la colère vient, je veux me souvenir de tes compassions. Seigneur, moi aussi, je veux veiller. Regardez, on termine avec ce texte, Apocalypse 3. Apocalypse 3, il prêche à l'Église de Sardes. C'est une Église qui ne va pas trop bien. Mais il y aura des vainqueurs. Il y aura des vainqueurs partout, de toute façon. Dans toutes les églises, il y aura des vainqueurs. Même si les pasteurs ne vont pas bien, même si les chrétiens ne vont pas bien. Partout dans l'Apocalypse, on voit à celui qui vaincra. Donc celui qui veut vaincre, celui qui veut être sérieux, celui qui veut se tenir devant Dieu, eh bien il sera gardé, croyez-moi. Vous le croyez? Vous le croyez? Dans une église, même il y aurait 1000 personnes, il n'y en a qu'un qui est attaché à Dieu. Vous croyez que Dieu le gardera? Ben, c'est clair, c'est écrit. Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, Habacuc a veillé, et ça a payé. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Et regardez la suite, la promesse que Dieu attache aux gens qui vont veiller. Celui qui vaincra, donc celui qui veille, c'est celui qui vaincra, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Vous aimez le blanc? Oui, il vaut mieux. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors peut-être pour vous c'est un peu virtuel tout ça. Mais mes frères et sœurs, c'est ça qui va se passer. Celui qui veille et qui dit, mais c'est clair, la colère revient, j'ai tout intérêt à être à l'abri sous les ailes de la plume, de la poule. J'ai tout intérêt à être protégé. Mais je ne vais pas rester dans cette protection et dormir. Je vais me lever et je vais veiller pour que les restes soient sauvés. Peut-être que dans votre famille, vous avez un enfant qui est encore inconverti. Est-ce que ça peut arriver? Eh bien, Seigneur, je ne te lâcherai pas que cet enfant revienne à toi. Est-ce que Dieu peut ramener un de vos enfants inconvertis à Dieu? Mais bien sûr que Dieu peut. Ce que le pécheur, ce n'est pas un problème, le pécheur. C'est lui qui convainc de péché. Ne vous occupez pas de convaincre de pécher quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais nous pouvons nous préoccuper de veiller et de réagir comme Habacuc. Vous lirez la fin du livre et vous verrez comment Habacuc va s'élever comme une biche qui monte dans les... Vous allez voir, c'est extraordinaire. Le jugement ne le décourage pas. Le jugement et la colère de Dieu ne le décourage pas. Lui, il sait que ça doit arriver, ne nous effrayons pas. Nous devons avoir la paix et dire, moi aussi, je vais participer, je vais avoir une vie de prière. En conséquence, je veux que dans ma famille, tout le monde soit sauvé. Est-ce que c'est un peu votre désir, ça? Bon, que monsieur Dupont qui habite là-bas, à Katmandou, de l'autre côté de la terre, vous ne le connaissez pas. Je comprends que vous ayez moins de passion, de compassion pour lui. Mais dans, vos enfants, vous ne voulez pas qu'ils soient sauvés? Seigneur, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Moi, quand je vais passer devant toi, je n'ai pas envie qu'un ange me dise, ah, ton nom, attends, je ne sais pas comment ils sont, les livres dans le ciel. Ton nom, Jérémy Gadroit. Gadroit. Go, oui, je vois. Gérard Gaud, Gadroit, Jérémy, hein, c'était effacé, Jérémy. Vous avez ri, mais quel désarroi, un nom qui avait été écrit dans le livre. C'est comme ça que ça va arriver.
C'est pas ça, c'est une image.
Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? C'est comme ça que ça va se passer. Quand on va passer devant Dieu, vous voulez que votre nom soit inscrit. Vous voulez... Que Jésus-Christ, devant le Père, lui, ce garçon, cette femme, il est couvert par mon sang. Vous voulez que Jésus soit votre avocat? Votre avocat. Pas votre juge. C'est comme ça que ça va se passer. Il y aurait tant et tant de choses à dire sur l'enlèvement, la grâce, la colère. Mais j'aimerais qu'on se recueille. Mais comme on a chanté tout à l'heure, oh, par ton sang précieux, tu m'as lavé. Vous êtes d'accord pour vous recueillir? Monsieur de Dieu, vous voulez bien choisir quelques frères? Faisons ces choses avec cœur. Vous savez, La Pâque, c'est ça, c'est que le jugement va venir. Le jugement, il vient. Le jugement vient, vous le savez. Mais heureux celui qui est à l'abri. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, mais c'est clair, je ne suis pas le chrétien que je devrais être, mais je suis couvert. Je suis sous le refuge du Seigneur. Heureux êtes-vous. On va prendre le pain et le vin. Vous vous rendez compte de cette belle image qu'on vient de lire? Qu'un jour... nous passerons devant Dieu. Votre nom, je ne sais pas s'il est inscrit dans le registre de l'Église. Peut-être que vous êtes membre de l'Église. Ce n'est pas grave, ça, si vous n'êtes pas membre de l'Église. Croyez-moi, ce n'est pas grave. Mais votre nom est-il inscrit dans le ciel? Écoutez bien cette parole. Votre nom a-t-il été effacé parce que vous vous êtes éloigné de Dieu? Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais une chose est sûre, c'est beau de pouvoir chanter... Jésus, par ton sang précieux, tu m'as lavé.